les fêtes chrétiennes, c'est pas le plus simple pour les prédicateurs, parce qu'on se dit toujours qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire sur Noël ou sur Pâques ou sur autre chose. Mais il y avait qui à la crèche le jour de Noël? Allô, allô?
Moi.
Il y avait qui à la crèche le jour de Noël, d'après la Bible?
Joseph.
Oui.
Le bœuf et l'âne.
Probablement.
Vache.
Et quoi encore? Qui encore plutôt?
Les bergers.
Et les bergers. Exactement. Dieu vient à Noël et il va inviter des personnes à le rencontrer dès le début. On va passer une première dia. Voilà, ça c'est une image classique. Les bergers et les mages. C'est une image fausse, parce que les bergers et les mages n'ont jamais été ensemble. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils sont présents, mais pas au même moment, malgré l'image. Et ils ont tous reçu une invitation. Jésus aurait, sans cette invitation-là, Jésus serait né juste avec ses parents. Complètement incognito. Mais il a voulu inviter dès le premier soir les bergers et ensuite les mages. L'invitation aux bergers, elle est directe, elle est solennelle, elle est extraordinaire. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leur troupeau. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée, qu'il accueille. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte, ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant dans la crèche. On met la deuxième image. On a souvent une image romantique des bergers. Il est vrai que Dieu est souvent présent, parfois présenté comme un berger. Puis ensuite, il y a eu toute l'imagerie. En fait, les bergers sont des gens sans instruction. Berger, c'est le boulot qu'on fait quand on ne sait pas quoi faire d'autre. Vous voyez? On n'a pas besoin d'avoir fait des études, on n'a pas besoin d'être compétent en quelque chose, on n'a pas besoin d'être un artisan qui sait travailler de ses mains. Berger, c'est pas très compliqué. Et ces gens vivent souvent à la marge de la société. Ils emmènent les troupeaux et puis ils partent pendant plusieurs jours. Aujourd'hui, on parle de dans nos pays, on parle de transhumance. Hein. On part avec les troupeaux pendant des semaines et on revient. Ils vivent un peu à la marge. Ils vivent avec leurs bêtes, jour et nuit. Et on les accuse facilement de larcin, de vol. Ils ont un peu la même réputation que les bohémiens, les tziganes dans nos pays, vous voyez? L'invitation au berger souligne un point important. Jésus, le Fils de Dieu, naît pauvre dans une crèche. Et ses premiers invités sont des pauvres. Ses premiers invités sont des pauvres. Et ce n'est pas un hasard. Cela fait partie du projet de Dieu, de son amour qui inclut tout le monde sans laisser personne de côté et qui prend un soin particulier de ceux que la société met de côté. Hérode n'a pas été invité, Pilate non plus. Les grands religieux, le grand prêtre n'a pas été invité. Mais les bergers, qui font partie des petits, des derniers de la société, sont invités. Et c'est aussi ça le message de Noël. C'est aussi ça le message de Noël, qui nous dit quelque chose sur Dieu. Les mages aussi reçoivent une invitation, mais celle-ci est indirecte, au travers de l'apparition d'une étoile. Je lis dans Marc 2, verset 1 à 2, « Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Je continue directement au verset 9. « Après avoir entendu le roi Hérode, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. » Dia suivante, ce sera la dernière. Voilà, les mages. Les mages sont des savants. La tradition en a fait des rois, mais la Bible ne parle pas de rois. Ce sont des savants, ce sont des gens cultivés, ce sont des gens riches. Ça, on le voit grâce aux cadeaux qu'ils donnent. Ils observent le ciel et les étoiles. À l'époque, on savait déjà beaucoup de choses sur la course des étoiles dans le ciel. On savait beaucoup de choses. Les marins savaient se diriger à partir des étoiles dans le ciel. Par exemple. Le mystère demeure, pour nous, comment les mages font-ils le lien entre cette étoile et la naissance du roi des Juifs ? C'est mystérieux, ça. On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils se mettent en route pour un long voyage. Ils ont compris qu'il se passait quelque chose de tout à fait particulier. Ils lâchent tout pour aller voir ce qui se passe. Le voyage qu'ils font, il a duré des semaines. Des semaines. Il est probable que ces gens-là vivent entourés d'autres personnes et qu'ils jouent un rôle important dans la société et que d'un coup, laisser tout tomber, c'est un peu compliqué, pas seulement pour eux, mais pour tous les autres aussi. Mais ils laissent tout tomber et ils partent en voyage. Pour suivre cette étoile, ils ne savaient même pas où cette étoile les emmènerait, c'est quand même pas mal. Où est-ce qu'on va en suivant cette étoile ? Ils ne savaient pas du tout qu'ils iraient à Bethléem. Ils avaient compris qu'il y avait une naissance dans la culture de l'époque, dans les cultures de l'époque même. Il arrive que quand il y a un phénomène nouveau dans le ciel, on le relie à la naissance d'une personne importante. Ce n'est pas arrivé seulement pour Jésus. Mais comment ils ont fait le lien avec le roi des Juifs et toutes ces choses-là, on ne sait rien du tout. Peut-être, comme les Israélites ont été déportés justement en Orient, dans l'Est, il y avait probablement encore des Juifs qui n'étaient pas revenus après le retour de l'exil, et peut-être qu'il y avait des choses qui se sont transmises. On ne sait pas. On ne sait pas. Bon. Les mages apportent un peu de faste à une cérémonie qui en manque cruellement. Mais ça, c'est vraiment pas important. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'après les pauvres, et seulement après, arrivent les riches, les savants, les cultivés. Après les bergers juifs, les étrangers sont invités. Et Noël nous montre un Dieu qui invite sans tenir compte des barrières entre les classes sociales, entre les nations, et d'une certaine manière, un Dieu qui ne respecte aucune des divisions qui trop souvent structurent nos sociétés et qui structuraient la société de l'époque. Avec les mages et les bergers, nous comprenons que le Christ ne vient pas pour une catégorie de population seulement, ou pour une nationalité seulement, mais pour tous les peuples de la terre. Jésus, tout au long de sa vie, manifestera cela. Dieu ne tient pas compte des divisions, des ségrégations au sein de la culture juive dans laquelle il va vivre son service, son ministère. Dieu va refuser la division entre juifs et samaritains, par exemple. Il va communiquer avec des samaritains qui vont se convertir à travers la samaritaine. Il va mettre en évidence que parmi les 10 lépreux, un seul est revenu et c'était un étranger, dit Jésus, c'est un samaritain. Il va souligner ça. Et bon, ça, c'est, il n'avait pas. On va dire, c'est un accident que c'était un samaritain. Mais il va faire d'un samaritain le héros d'une histoire qu'il a inventée du début jusqu'à la fin. Vous connaissez cette histoire? C'est la parabole du bon samaritain. Là, franchement, c'est lui qui est responsable à 100% qu'un samaritain soit le héros de l'histoire. Une manière pour Jésus de montrer qu'il refuse ces divisions. Et Jésus, qui s'est fait homme, va aussi réfléchir à toutes ces divisions, à toutes ces questions. Il a réfléchi aux tensions entre juifs et samaritains, comme il aurait réfléchi aujourd'hui probablement entre les Irlandais, entre les Irlandais du Nord et ceux du Sud. Et dans cette tension entre samaritains et juifs, il va apporter une solution. Vous vous rappelez la solution qu'il apporte? Il va ouvrir un chemin de paix. Vous voyez lequel? C'est très intéressant comme Jésus fonctionne. La femme lui dit, vous, vous adorez à Jérusalem et nous, on adore sur cette montagne. Ça, c'est... Cette montagne, il y avait un temple que les Juifs, d'ailleurs, ont rasé. Pour vous dire à quel point l'ambiance était bonne, quoi. Comme c'était des hérétiques qui se sont permis de raser ce temple. Jésus va dire, l'heure vient, et elle est déjà là, où c'est pas ici ou ailleurs qu'on va adorer, parce que le Père veut des adorateurs en esprit et en vérité. Et d'un coup, se battre pour un lieu, ça n'a plus de sens. Parce que c'est pas là que ça se joue. Je me dis que parfois on devrait rappeler cette phrase, quand on donne tellement d'importance à des lieux qu'on dit saints, alors que Jésus lui-même a désanctifié, si je puis dire, les lieux, les endroits, la géographie. Mais il avait réfléchi à cette question, parce qu'il est venu aussi dans la réalité de nos sociétés, dans la réalité de son époque, mais aussi de la nôtre. Donc Jésus invite tout le monde. Dieu invite tout le monde, Jésus ne tient pas compte des divisions sociales entre juifs et samaritains, entre hommes et femmes, entre adultes et enfants. Hein, vous vous rappelez toutes ces histoires? Entre les bons religieux croyants et les pécheurs notoires. Et on pourrait allonger la liste. Car déjà, dès le début, la grâce de Dieu se manifeste. Son accueil de tous, son amour de tous. Si les bergers sont invités et les mages aussi, si Dieu invite tout le monde, ça veut dire que nous aussi nous sommes invités. Invités à Noël pour voir Dieu nous rencontrer en se faisant homme, et invités à rencontrer Jésus, évidemment, une fois devenu adulte, dans tout ce que les évangiles nous racontent de sa vie. Invité à regarder Jésus, invité à laisser à Noël, invité à ce que le message de Noël purifie toujours à nouveau nos représentations de Dieu. Quand Dieu vient en Jésus, il laisse de côté la grandeur, la majesté, la royauté, même si le cœur des anges chante un moment, mais il vient comme un enfant dans la pauvreté, dans la simplicité la plus grande, et dans une humilité tout à fait surprenante pour un roi. À Noël, Dieu veut nous guérir de nos fausses images sur lui-même. Toutes ces images qui nous éloignent de lui, qui l'isolent dans sa grandeur, sa gloire, sa majesté, etc. Et qui, non seulement nous isolent, mais parfois nous font peur. Nous croyons que Dieu est une espèce de super César ou de super Napoléon. De super conquérant, enfin bref. bref, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Nous sommes piégés par nos représentations de ce qui est grand et de ce qui ne l'est pas. Dieu veut nous guérir de ça. L'important, nous dit Dieu à Noël, n'est pas dans la richesse et le pouvoir, mais dans le fait de rencontrer, dans le désir de Dieu de rencontrer chacun, chacune, sans exception. Et chaque rencontre étant quelque chose d'unique. Les bergers et les mages ont des rencontres très différentes. Et d'unique et de très personnel. Dieu rencontre les mages à travers les compétences des mages, le savoir des mages. Il rencontrera d'autres personnes à travers d'autres, de manière tout à fait particulière, tout à fait personnalisée. Parce que ce qui est important pour Dieu, c'est l'amour. Ça ne le dérange en aucun cas de venir pauvre et fragile. Ça ne le dérange en aucun cas de vivre la condition humaine et ses limites. D'être devenu humain en ayant froid, en ayant faim, en étant fatigué et en vivre les limites de l'humanité. Ça ne le dérange pas du tout parce que son objectif, c'est de créer des relations nouvelles entre lui et les êtres humains. Et donc il va faire ce qu'il faut pour. Devenir, se dépouiller de la gloire, de la majesté divine, devenir serviteur n'est pas humiliant pour Dieu, parce que ce n'est pas important ça pour lui. Son but, c'est de se faire proche de nous pour que nous puissions le rencontrer. Et Jésus a manifesté ça aussi parce que, quand on lit sa vie dans les évangiles, il est tout le temps en déplacement. Tout le temps. Au lieu de construire un ashram, un temple, un machin, où tout le monde viendrait, en haut d'une montagne, il va se déplacer tout le temps. Et je peux faire l'hypothèse assez facile qu'il n'y a pas un village de Judée ou de Galilée où il n'est pas passé un moment ou un autre. Parce que ça permettait à tout le monde de le rencontrer. Si nous lisons les évangiles sous cet angle-là, on pourrait se dire qu'il y a des tas de gens qui n'auraient jamais rencontré Jésus si lui ne s'était pas déplacé d'État. Parce que c'est ça qu'il souhaite, c'est nous rencontrer, construire avec nous une relation d'amour et accueillir son salut. Et Jésus le fait en faisant tous les pas nécessaires de son côté, dans le plus grand respect et ne cherchant jamais à s'imposer. Et avec tous ces gens-là, Jésus va construire un peuple nouveau, une église. Au fil du temps et dans différents lieux, une église, une seule église, de par le monde. Et alors, de manière très simple, moi j'illustre ça ainsi, et je me demande ce matin, qui d'entre vous j'aurais jamais rencontré si Jésus n'était pas venu? Alors, probablement la famille est gay parce qu'il y a des liens de famille du côté de ma femme, mais avec Christian, mais voilà. Mais tous les autres. Est-ce qu'on se le dit ça parfois? C'est quand même le miracle, quoi. On n'est pas toujours des cadeaux les uns pour les autres, hein, ça c'est clair, parce qu'on est des êtres humains. Mais quand même, la richesse de l'Église, qu'on peut vivre ensemble, ce qu'on peut construire ensemble, avec ce qui est difficile, mais aussi ce qui est génial, sans Jésus, on ne se serait jamais rencontré. C'est quand même super, enfin, il faut se le rappeler de temps en temps, quoi. Il faut se le rappeler. Dernier point que je voudrais développer, puis je ne vais pas être trop long, parce qu'apparemment, il y a un petit truc à la fin, après le culte. Et qui est important. Dieu veut rencontrer tout le monde. Il a envoyé son fils pour ça. Puis ensuite, son fils a envoyé l'église pour porter les cartons d'invitation. C'est l'église maintenant qui doit porter le carton d'invitation pour rencontrer. Dieu dit, j'aimerais te rencontrer. Et c'est à nous de porter les cartons d'invitation. À la fois dans notre entourage direct, mais aussi et surtout peut-être en tant qu'Église. Parce que dans Matthieu 28, quand Jésus envoie les disciples, il envoie en fait l'Église au cours des siècles. Et donc c'est à nous, Église de Darnay, de voir comment porter les cartons d'invitation. Et comme Dieu veut rencontrer tout le monde, on ne peut pas sélectionner. On ne peut pas sélectionner. Donc il faut réfléchir, il faut voir. avec nos possibilités qui ne sont pas illimitées, évidemment. Mais c'est à nous de porter les cartons d'invitation là où nous sommes. C'est ce que Noël nous rappelle aussi. C'est cet envoi que Jésus nous fait d'être les porteurs de son invitation. Alors que Dieu nous aide, nous conduise, nous fortifie, nous inspire pour faire ce qu'il nous demande, à la fois dans notre vie de relation, à l'image de son amour pour nous, et dans le fait de porter à notre tour l'invitation à le rencontrer. Amen.
Amen.